Introduction à l'étude de la prophétie, première partie. L'histoire d'Israël, des nations et de l'Église jusqu'au retour de Christ. Cette première partie se décompose en quatre divisions. Première division, introduction. Deuxième division, Israël. Troisième division, les nations. Quatrième division, l'Église. Première division, introduction. Avant d'aborder l'étude détaillée de l'histoire d'Israël, des nations et de l'Église, nous croyons utile d'exposer dans une brève introduction les grandes lignes du sujet. Premièrement, les desseins de Dieu à l'égard des hommes concernent trois groupes distincts, Israël, les nations, l'Église. 1 Corinthiens 10, verset 32.
Ne devenez une cause d'achoppement ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Assemblée de Dieu.
Fait remarquable, l'histoire de ces trois groupes converge sur le retour du Seigneur. Ce retour apportera le bonheur terrestre aux deux premiers pendant le millénium, tandis que l'espérance de l'Église est d'être enlevée à la rencontre du Seigneur, son céleste époux, pour être avec lui. Deuxièmement, lorsque Dieu eut créé l'homme, il le plaça dans le jardin qu'il avait planté pour lui et le combla de bénédictions. Malheureusement, par sa chute, l'homme se rendit indigne de cette faveur et Dieu dut le chasser d'Éden. La descendance d'Adam, s'étant entièrement pervertie, fut anéantie par le déluge. Quant aux générations issues des fils de Noé, nous les voyons sombrer dans l'idolâtrie et attirer sur elles le jugement de Dieu à la tour de Babel, Genèse chapitre 11. Troisièmement, de Babel. L'Éternel dispersa les hommes sur la face de toute la terre, Genèse 11, verset 9.
C'est pourquoi on appela son nom Babel, car là l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et de là l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre.
Mais il appela Abraham, lui disant,
« Va-t'en de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai, et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Genèse 12, versets 1 à 3.
Ainsi, en vertu d'un décret de sa grâce souveraine, Dieu appelle Abraham hors de son pays, fait alliance avec lui et lui promet trois choses. Premièrement, un pays, la Palestine. Deuxièmement, une postérité innombrable qui constituera une grande nation, le peuple d'Israël. Troisièmement, par le canal de ce peuple, toutes les familles de la terre seront bénies. Cette bénédiction universelle consistera dans la révélation de Dieu par sa parole et par la venue du Sauveur sur la terre. Hélas, Israël ne demeura pas fidèle, de sorte que Dieu dut le châtier. Ce furent les captivités successives et, après qu'Israël eut rejeté son Messie, la destruction de Jérusalem et la dispersion des Juifs parmi les nations. Mais Dieu reprendra ses relations avec son peuple lorsque l'histoire de l'Église sur la terre sera terminée. Il le ramènera en Palestine et le fera passer par une grande tribulation qui conduira une partie du peuple, le résidu, à s'humilier d'avoir rejeté et mis à mort son Messie. Cette histoire d'Israël s'achève par l'apparition en gloire du Seigneur Jésus qui, après avoir anéanti ses ennemis et jugé les nations, entrera dans son règne. Quatrièmement, quant aux nations, leur histoire, nous l'avons dit, est orientée également vers le retour de Christ, dont le règne de justice et de paix apportera enfin la bénédiction au peuple déchiré par des siècles de guerre et de haine. Lorsque Israël, ayant abandonné l'Éternel, est amené en captivité, Dieu attribua un rôle aux nations dans ses voies quant à la terre. Alors débutèrent les temps des nations, 607 avant Jésus-Christ, période qui s'étendra jusqu'à la venue du Seigneur en gloire. Cinquième partie. Quand Israël eut rejeté son Messie, Dieu commença à tirer un peuple pour son nom, acte 15, verset 14, aussi bien d'entre les nations que d'entre les Juifs.
Siméon a raconté comment Dieu a premièrement visité les nations pour en tirer un peuple pour son nom.
Ce nouveau peuple, appelé l'Église ou l'Assemblée, est composé de tous ceux qui, depuis la Pentecôte et jusqu'au retour de Christ, en croyant au Seigneur Jésus, sont scellés de l'Esprit Saint et deviennent membres du corps de Christ. Cette Église unie à un Christ glorifié et céleste, ceux qui la composent sont appelés hors du monde, l'objet de leur cœur est dans le ciel, l'espérance de l'Église est d'être bientôt enlevée à la rencontre de son céleste époux. Son histoire sur la terre se terminera donc par la venue du Seigneur. Précisons que cette venue ne fait pas partie des événements prophétiques, puisqu'elle marque l'achèvement de l'ère de la grâce. La période prophétique s'arrête à la mort du Seigneur et ne reprendra son cours qu'après l'enlèvement de l'Église. Sixième partie. Avant d'aller plus loin, rappelons encore que Christ est au centre du plan divin à l'égard d'Israël, des nations et de l'Église. Le grand but des dispensations de Dieu, c'est de se glorifier lui-même en Christ. Par conséquent, ni le peuple juif, ni les nations, ni l'Église ne sont les objets directs de la prophétie, pas plus qu'aucun des personnages que nous serons appelés à considérer au cours de notre étude. L'objet suprême de la prophétie, c'est Christ. Les divers sujets que nous venons d'énumérer se rattachent à lui, constituent la sphère de sa gloire et ne présentent un intérêt pour nos âmes que parce qu'ils sont en relation avec lui. Christ est le centre, et en lui tout sera uni un jour dans le ciel et sur la terre. Il importe que nous ayons constamment cette vérité devant les yeux si nous voulons comprendre ce que l'Écriture nous révèle concernant Israël, les nations et l'Église. C'est à cette condition aussi que l'étude de la prophétie fortifiera nos âmes en les nourrissant de Christ, réjouira nos cœurs en leur révélant les gloires de sa personne et affermira notre marche en nous amenant à attendre avec toujours plus de réalité notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Deuxième division, Israël. Chapitre 1er. La vocation d'Israël. Les prophéties concernant le peuple d'Israël sont tellement liées à son histoire passée qu'il n'est pas possible de les étudier sans examiner les étapes principales de cette histoire. Premièrement, celle-ci est précédée de l'appel d'Abraham. Les hommes ayant abandonné leur Créateur pour se vouer au culte des idoles, Dieu les abandonna eux-mêmes à leur propre infamie. Mais, ne voulant point rester sans témoin sur la terre, et nous verrons qu'il en sera ainsi jusqu'à la fin, il se choisit, d'entre les nations, un peuple à lui, issu d'un homme qu'il appela à sortir de son pays.
Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nakhor, ont habité anciennement au-delà du fleuve, et ils ont servi d'autres dieux. Et je pris votre père Abraham d'au-delà du fleuve, et je le fis aller par tout le pays de Canaan, et je multipliai sa semence. Josué 24, versets 2 et 3.
Les promesses que Dieu fit à Abraham n'étaient soumises à aucune condition. Par le rejet du Messie, Israël a perdu tout droit à ses promesses. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, et, en grâce, il les accomplira. Examinons-les d'un peu plus près. Par la première promesse, Dieu donne à Israël un pays, Canaan. Cette promesse fut confirmée à plusieurs reprises à Abraham.
Et l'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta semence. » Genèse 12, verset 7. Et l'Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève tes yeux et regarde, du lieu où tu es, vers le nord et vers le midi, et vers l'orient et vers l'occident, car tout le pays que tu vois je te le donnerai, et à ta semence pour toujours. Lève-toi et promène-toi dans le pays en long et en large, car je te le donnerai. » Genèse 13, versets 14 à 17.
Dieu confirma cette promesse par une alliance solennelle.
En ce jour-là, l'Éternel fit une alliance avec Abraham, disant, « Je donne ce pays à ta semence depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate. » Genèse 15, verset 18. Et Dieu parla avec lui, disant, « Quant à moi, voici, mon alliance est avec toi. » Et tu seras père d'une multitude de nations, et je te donne, et à ta semence après toi, le pays de ton séjournement, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Genèse 17, versets 3 à 8. Deuxièmement, la promesse et l'alliance furent transférées à Isaac, à Jacob, Israël, et à leurs descendants. Et l'Éternel dit à Isaac, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je t'ai dit. Séjourne dans ce pays-ci, et je serai avec toi, et je te bénirai. Car à toi et à ta semence, je donnerai tous ces pays, et j'accomplirai le serment que j'ai juré à Abraham ton père, et je multiplierai ta semence comme les étoiles des cieux. » Et je donnerai tous ces pays à ta semence. Genèse 26, versets 2 à 4.
À Jacob, qui s'enfuyait loin d'Ésaü, Dieu déclara de même,
« La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, et à ta semence. Et ta semence sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'occident, et à l'orient, et au nord, et au midi. » Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta semence. Genèse 28, versets 13 et 14.
Troisièmement, cette dernière citation nous rappelle les deux autres promesses que Dieu fit à Abraham, savoir qu'il deviendrait une très grande nation et que le peuple d'Israël serait le canal par lequel Dieu bénirait toutes les familles de la terre. Tel fut effectivement le cas. C'est à ce peuple que Dieu révéla ses pensées en lui donnant sa parole, et il lui envoya aussi le Messie, qui devint le Sauveur du monde. Malgré les prétentions des Juifs, la Bible et le Sauveur n'étaient pas pour eux seuls, mais pour tous les hommes. Si
le salut vient des Juifs, Jean 4, verset 22,
parce que le Sauveur est issu d'eux, selon la chair, il vient, par leurs moyens, pour toutes les familles de la terre, et la promesse de bénédiction s'étend de la période actuelle jusqu'au millénium, car alors, sous le règne de Christ, toutes les nations jouiront de la prospérité et de la paix. Chapitre 2. De l'entrée en Canaan jusqu'à la captivité. Premièrement, plus de 400 ans s'écoulèrent avant que les descendants d'Abraham devinssent réellement une nation. Il fallut, pour cela, qu'ils fussent délivrés de l'esclavage du pays d'Égypte, et cet événement, suivi de la traversée du désert et de l'entrée en Canaan, marqua le début de leur histoire nationale. Cette nation devait être le peuple de Dieu sur la terre, ses témoins, et demeurer entièrement séparé des païens.
Voici, c'est un peuple qui habitera seul, et il ne sera pas compté parmi les nations. Nombre 23, verset 9. Car tu es un peuple saint, consacré à l'Éternel ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, afin que tu sois pour lui un peuple qui lui appartienne en propre, d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Deutéronome 7, verset 6.
D'autre part, Dieu avait promis à Israël de le combler de bénédictions s'il observait ses commandements.
Si vous marchez dans mes statuts, et si vous gardez mes commandements et les pratiquez, je vous donnerai vos pluies en leur temps, et la terre donnera son rapport, et l'arbre des champs donnera son fruit. le temps du foulage atteindra pour vous la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Et vous mangerez votre pain à rassasiement, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Et je donnerai la paix dans le pays, et vous dormirez sans que personne vous épouvante, et je ferai disparaître du pays les bêtes mauvaises, et l'épée ne passera pas sur votre pays. Et je vous ferai fructifier, et je vous multiplierai, et je mettrai à effet mon alliance avec vous. Et vous mangerez de vieilles provisions, et vous sortirez le vieux de devant le nouveau. Et je mettrai mon tabernacle au milieu de vous, et mon âme ne vous aura pas en horreur. Et je marcherai au milieu de vous, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Lévitique 26, versets 3 à 12.
Deuxièmement, mais, hélas, Israël ne se montra pas longtemps à la hauteur de sa vocation, oubliant l'appel de Dieu qui faisait de lui
un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Exode 19, verset 6.
Il s'éloigna de Jéhovah et se voua au culte des faux dieux, de sorte que l'Éternel dut le châtier à maintes reprises. Israël finit par rejeter le Dieu de ses pères et demanda un roi, afin que l'Éternel ne régnât plus sur lui. Dieu lui donna, pour son jugement, le roi Saül. Puis vint David, l'homme selon le cœur de Dieu, avec qui l'Éternel fit une alliance, au terme de laquelle sa maison et son royaume seraient rendus stables à jamais, et son trône serait affermi pour toujours.
2 Samuel 7, verset 16. Et ta maison et ton royaume seront rendus stables à toujours devant toi, ton trône sera affermi pour toujours.
Mais Dieu l'avertit en même temps que si ses descendants commettaient l'iniquité, ils seraient châtiés.
Avec une verge d'homme et avec des plaies des fils des hommes, verset 14.
Cela ne tarda pas à se produire, et, après le règne de Salomon, 10 tribus se révoltèrent et constituèrent un royaume séparé, dont Samarie devint la capitale. Les livres des rois et des chroniques contiennent le récit des iniquités toujours plus graves qui marquèrent, de façon ininterrompue, la triste histoire de ce royaume jusqu'au jour où, sous le roi Osée, de roi 17, Shalmanézer, roi d'Assyrie, s'empara de Samarie, la détruisit et emmena les 10 tribus en captivité, 721 avant Jésus-Christ. Elles ne rentrèrent plus jamais en Canaan. Dieu usa de patience durant 130 ans encore envers le royaume de Juda, capitale Jérusalem. Mais la méchanceté et l'idolâtrie s'accrurent tant que cette patience arriva, là aussi, à son terme. Jérusalem fut prise et rasée, le temple détruit, le roi Sédécias et les habitants du pays emmenés captifs à Babylone par le roi Nebuchadnezzar, 2 rois 25. Dieu abolit alors la royauté en Israël et transféra la puissance aux nations qui la détiennent maintenant encore. Troisièmement, ainsi commencèrent les temps des nations. Dès lors et jusqu'à aujourd'hui, 3 faits caractérisent la condition d'Israël. Petit a, la gloire de Dieu s'est retirée du temple. Tout ce qui manifestait la présence de l'Éternel en Israël est perdu. L'arche et son contenu, les ustensiles du temple, la nuée qui avait accompagné le peuple depuis la traversée de la mer Rouge.
Ézéchiel 10, verset 18 et 11, verset 23. Et la gloire de l'Éternel sortit de dessus le seuil de la maison et se tint au-dessus des chérubins. Et la gloire de l'Éternel monta du milieu de la ville et se tint sur la montagne qui est à l'orient de la ville. Car les fils d'Israël resteront beaucoup de jours sans roi et sans prince et sans sacrifice et sans éphod ni téraphin. Osée 3, verset 4. Petit b. Lors des châtiments qu'il leur infligeait précédemment pour les ramener à lui, Dieu les considérait encore comme son peuple, mais il leur dénie désormais ce titre qui les distinguait des nations païennes.
Et il dit, appelle son nom Lo-Ami, pas mon peuple, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne serai pas à vous. Osée 1, verset 9. Petit C, le trône de David est renversé. L'Éternel ne règne plus à Jérusalem, mais le pouvoir est transféré aux nations. Ces trois caractères principaux de la condition d'Israël subsistent aujourd'hui encore et ne disparaîtront que lorsque ce peuple sera converti et restauré. Sans doute, une petite partie de Juda remonta-t-elle de Babylone 70 ans plus tard, comme nous allons le voir dans notre prochain chapitre. Mais ce retour partiel ne modifia aucunement la position nationale du peuple. La gloire de l'Éternel ne revint pas, la sentence « Lo-Ami, pas mon peuple » ne fut point annulée, et le trône de David ne fut pas restauré. Chapitre 3. Le retour de Babylone et les 70 semaines de Daniel. Premièrement, le prophète Jérémie avait annoncé que Dieu ramènerait en Canaan les captifs de Babylone après une période de 70 ans.
Jérémie 29, verset 10. Car ainsi dit l'Éternel, lorsque 70 ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai, et j'accomplirai envers vous ma bonne parole, pour vous faire revenir en ce lieu. Daniel 9, verset 2. Moi, Daniel, je compris par les livres que le nombre des années touchant lequel la parole de l'Éternel vint à Jérémie le prophète pour l'accomplissement des désolations de Jérusalem, était de 70 années.
Nous voyons en Esdras 1 que l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, 536 avant Jésus-Christ, et celui-ci publia un édit par lequel il autorisa tous ceux de Juda qui le désiraient à rentrer à Jérusalem sous la conduite de Zorobabel pour reconstruire le temple, 515 avant Jésus-Christ.
Esdras 6, verset 15. Et cette maison fut achevée le troisième jour du mois d'Adar, c'était la sixième année du règne du roi Darius.
C'est seulement Néhémie qui, selon la prophétie annoncée à Daniel 9, verset 25,
fut chargé par le roi Artaxerxès Ier, dit longuement, de rebâtir Jérusalem et ses murailles.
Néhémie 2, 455 avant Jésus-Christ.
Daniel 9, verset 25. Et sache et comprends, depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le Prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. La place et le fossé seront rebâtis, et cela en des temps de trouble.
Note en bas de page, en fait, moins de 50 000 âmes retournèrent en Israël. Il y a lieu de relever à ce propos que le prophète Ésaïe a annoncé la chose près de 2 siècles d'avance en désignant Cyrus par son nom, Ésaïe 44, verset 28 et 45, verset 13.
Qui dit de Cyrus, « Il est mon berger, il accomplira tout mon bon plaisir, disant à Jérusalem, tu seras bâti et au temple tes fondements seront posés. Moi je l'ai suscité en justice et je rendrai droite toutes ses voies, lui bâtira ma ville et renverra libre mes captifs, sans prix et sans présent, dit l'Éternel des armées. »
Reprise de la lecture. Cette preuve de la miséricorde de Dieu envers un petit nombre de captifs n'a cependant pas modifié son décret antérieur. La nation, comme telle, ne fut pas restaurée, et les bénédictions dont elle avait été privée à cause de son infidélité ne lui furent jamais plus accordées. Bien que le temple fût reconstruit, l'arche de l'Alliance n'y revint pas, la nuée de gloire n'y apparut plus, et, dans les 3 livres prophétiques écrits après le retour de Babylone, Dieu ne s'adresse plus à Israël comme à son peuple. Deuxième point. Pourquoi donc ce retour partiel de Juda après 70 ans de captivité? Certainement parce que Dieu voulait qu'il y eût un reste d'Israël en Palestine lors de la venue du Messie sur la terre. Nous l'avons dit, Christ est au centre des conseils de Dieu. Il est l'espérance d'Israël, ne l'oublions pas. Quand il vint ici-bas, Dieu avait donc préparé tout ce qu'il fallait pour qu'il pût être reçu par son peuple, comme le Messie promis, la semence d'Abraham, le fils de David, le prophète. Certes, Israël était depuis longtemps déchu de ses prérogatives de peuple élu. Les Romains occupaient le pays et avaient placé un Iduméen sur le trône de David. La descendance royale était si appauvrie que la mère du Seigneur dut le mettre au monde dans une étable, avec une crèche pour berceau. Malgré ces tristes conditions, le Messie était maintenant au milieu de son peuple. Celui-ci allait-il le recevoir? Dieu,
ayant donc encore un unique fils bien-aimé, le leur envoya lui aussi, le dernier, disant « Ils auront du respect pour mon fils » Marc 12, verset 6.
Quelle bénédiction eût été la part de ce peuple s'il avait reconnu et accueilli son roi. Nous l'entendons lui-même évoquer avec larmes cette heureuse, mais alors irréalisable vision, lorsque, arrivé près de Jérusalem, il s'écrie
« Si tu eusses connu, toi aussi, au moins en cette tienne journée, les choses qui appartiennent à ta paix, et maintenant elles sont cachées devant tes yeux, » Luc 19, verset 42.
Les yeux d'Israël étaient incapables de discerner les choses qui appartenaient à sa paix. Après avoir méprisé les appels que Dieu lui avait adressés durant des siècles par ses messagers, il jeta l'héritier hors de la vigne et le tua.
Celui-ci est l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Luc 20, verset 14.
Ils ont crié,
ôte, ôte, crucifie, crucifie-le, que son sang soit sur nous et sur nos enfants.
C'est du sang de leur Messie qu'ils se chargèrent ainsi délibérément, et ce péché, en portant à son comble l'iniquité nationale d'Israël, lui attira une succession ininterrompue de tribulations durant les 19 siècles qui se sont écoulés depuis la croix. Il lui attirera les châtiments plus terribles encore de la grande tribulation à venir. Troisièmement, les événements que nous venons de résumer ont été annoncés prophétiquement à Daniel par l'ange Gabriel.
70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville pour clore la transgression et pour en finir avec les péchés et pour faire propitiation pour l'iniquité et pour introduire la justice des siècles et pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Et sache, et comprends, depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem, jusqu'au Messie, le Prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. La place et le fossé seront rebâtis, et cela en des temps de trouble. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché, et n'aura rien, Daniel 9, versets 24 à 26.
Il s'agit de semaines d'années, soit 490 ans au total. Cette période se subdivise en trois phases. Petit a, une première phase de 7 semaines, soit 49 années, pendant lesquelles la ville de Jérusalem fut reconstruite. Esdras et Néhémie relatent l'accomplissement de cette portion de la prophétie. Petit b. La deuxième phase, succédant immédiatement à la première, compte 62 semaines, soit 434 ans. À la fin de cette période, le Messie devait être retranché. Effectivement, l'échéance de 69 semaines, 483 ans, nous amène à la fin de la vie du Seigneur sur la terre. Au lieu de s'asseoir sur le trône de David et de régner sur Israël et sur la terre entière, le Messie fut crucifié et ne reçut aucune des gloires auxquelles son titre lui donnait droit. Entre la 69e et la 70e semaine s'insère une période d'une durée indéterminée qui correspond approximativement à l'histoire de l'Église sur la terre. Quant au peuple juif, il fut amené en captivité par les Romains qui détruisirent Jérusalem en l'an 70 de notre ère. Comme l'annonce la deuxième partie du verset 26,
« Et jusqu'à la fin, il y aura guerre, un décret de désolation. »
Durant cette période, le peuple de Daniel et sa sainte ville sont entièrement laissés de côté, de sorte qu'on a pu dire que, pendant cet intervalle, l'horloge prophétique s'était arrêtée. Petit c, la troisième phase ne comporte donc plus qu'une semaine, soit 7 années. Cette période commencera après l'enlèvement de l'Église. Dieu reprendra alors ses relations avec Israël, qui traversera les terribles jugements de la grande tribulation. Chapitre 4. Le rejet et la dispersion d'Israël. Premièrement, dans la parabole des cultivateurs qui tuèrent l'héritier, le Seigneur prononce contre eux ce jugement.
Que fera donc le maître de la vigne? Il viendra et fera périr les cultivateurs et donnera la vigne à d'autres. Marc 12, verset 9. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et sera donné à une nation qui en rapportera les fruits. Matthieu 21, verset 43.
Dieu a donc rejeté son peuple pour un temps et s'est tourné vers les nations. Pendant ce temps, Dieu a donné à Israël
un esprit d'étourdissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais par leur chute, le salut parvient aux nations. Un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé. Romains 11, versets 8 à 26. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'étourdissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et David dit que leurs tables deviennent pour eux un filet et un piège, et une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et courbent continuellement leur dos. Je dis donc, ont-ils bronché afin qu'ils tombassent, qu'ainsi n'advienne? Mais par leur chute, le salut parvient aux nations pour les exciter à la jalousie. Or, si leur chute est la richesse du monde, et leur diminution la richesse des nations, combien plus le sera leur plénitude? Car je parle à vous, nations, en tant que moi je suis en effet apôtre des nations. Je glorifie mon ministère. Si en quelque façon je puis exciter à la jalousie ma chair et sauver quelques-uns d'entre eux. Car si leur réjection est la réconciliation du monde, quelle sera leur réception, sinon la vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Or, si quelques-unes des branches ont été arrachées, et si toi qui étais un olivier sauvage as été hanté au milieu d'elle et est devenu coparticipant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas contre les branches. Mais si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été arrachées afin que moi je fusse hanté. Bien, elles ont été arrachées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu es debout par la foi. Ne t'enorgueillis pas, mais crains, si en effet Dieu n'a pas épargné les branches, qui sont telles selon la nature, qu'il ne t'épargne pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, la sévérité envers ceux qui sont tombés, la bonté de Dieu envers toi, si tu persévères dans cette bonté, puisque autrement, toi aussi, tu seras coupé. Et eux aussi, s'ils ne persévèrent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau, car si toi, tu as été coupé de l'olivier qui selon la nature était sauvage, et a été hanté contre nature sur l'olivier franc, combien plus ceux qui en sont selon la nature seront-ils hantés sur leur propre olivier? Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère-ci, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël, jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob l'impiété.
Par conséquent, lorsque nous parlons du rejet d'Israël, gardons-nous d'oublier que ce rejet n'est pas définitif, et qu'un jour, qui paraît très proche, les promesses faites quant à la restauration de ce peuple s'accompliront. Mais en attendant ce jour, Israël est dispersé parmi les nations et privé de toutes les bénédictions que Dieu lui avait promises s'il demeurait fidèle. Nous allons examiner sa condition actuelle à la lumière de la parole. Deuxièmement, les Juifs s'étant révoltés contre Rome, les armées de Titus envahirent le pays en l'an 70, détruisirent Jérusalem, massacrèrent des milliers d'habitants, amenèrent les rescapés et les vendirent comme esclaves. Dès lors, le peuple juif fut dispersé dans le monde entier, ainsi que Dieu l'avait annoncé déjà par la bouche de Moïse.
Et l'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous resterez un petit nombre parmi les nations où l'Éternel vous mènera, Deutéronome 4, 27. Et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. Chapitre 28, verset 64.
Le prophète Jérémie avait, lui aussi, annoncé cette dispersion sur la terre entière.
Et je le disperserai parmi les nations qu'ils n'ont pas connues, eux et leurs pères, et j'enverrai après eux l'épée jusqu'à ce que je les ai consumés. Jérémie 9, verset 16.
Enfin, le Seigneur avait averti ses disciples de ce châtiment qui s'abattrait sur la nation rebelle.
Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée, et seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Luc 21, verset 24.
Toutes ces prophéties ont été réalisées à la lettre. Il n'y a pas un pays au monde où l'on ne trouve actuellement des Juifs. D'autres passages de l'Écriture nous décrivent les tourments qui sont leur part dans l'exil.
Et parmi ces nations, tu n'auras pas de tranquillité, il n'y aura pas de repos pour la plante de ton pied. Et l'Éternel te donnera là un cœur tremblant, et des yeux languissants, et une âme défaillante. Et ta vie sera en suspens devant toi, et tu seras dans l'effroi nuit et jour, et tu ne seras pas sûr de ta vie. Le matin tu diras, qui donnera le soir? Et le soir tu diras, qui donnera le matin? À cause de l'effroi de ton cœur dont tu seras effrayé, et à cause des choses que tu verras de tes yeux. Deutéronome 28, versets 65 à 67.
Voir Lévitique 26, versets 36 à 39.
Et quant à ceux qui demeureront de reste d'entre vous, je ferai venir la lâcheté dans leur cœur, dans les pays de leurs ennemis, et le bruit d'une feuille emportée par le vent les poursuivra, et ils fuiront comme on fuit l'épée. Et ils tomberont sans que personne les poursuive, et ils trébucheront l'un par-dessus l'autre comme devant l'épée, sans que personne les poursuive, et vous ne pourrez pas tenir devant vos ennemis, et vous périrez parmi les nations, et le pays de vos ennemis vous dévorera. Et ceux qui demeureront de reste d'entre vous se consumeront dans leur iniquité, dans les pays de vos ennemis, et ils se consumeront dans les iniquités de leurs pères avec eux.
Là encore, la précision de l'Écriture est impressionnante. Au cours des siècles de notre ère, des millions de Juifs ont été persécutés, torturés, expulsés, pillés et massacrés. Pendant la seule guerre de 1939-1945, 6 millions de Juifs furent mis à mort. Troisièmement, et pourtant, malgré ces terribles épreuves, Israël subsiste comme peuple. Cela, Dieu l'avait aussi annoncé dans sa parole, des milliers d'années à l'avance.
Même alors, quand ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les mépriserai pas, et je ne les aurai pas en horreur pour en finir avec eux, pour rompre mon alliance avec eux. Car moi, je suis l'Éternel, leur Dieu, et je me souviendrai en leur faveur de l'alliance faite avec leur père, lesquels j'ai fait sortir du pays d'Égypte, sous les yeux des nations, pour être leur Dieu. Moi, je suis l'Éternel. Lévitique 26, verset 44-45.
C'est ainsi que Dieu se sert des persécutions dont son peuple est victime pour le tenir à part des nations parmi lesquelles il l'a dispersé. Quatrièmement, au reste, des châtiments ont été prononcés, et en partie déjà exécutés, contre les nations qui persécutent Israël. Nous lisons
en Zacharie 2, verset 8, « Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. »
Quand bien même certains de leurs exacteurs disent, pour justifier leur violence,
« Nous ne sommes pas coupables parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. » Jérémie 50, verset 7.
Dieu est fidèle à la promesse qu'il a faite à Abraham.
« Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Genèse 12, verset 3.
Jérémie déclare de même
« Je détruirai entièrement toutes les nations où je t'ai dispersé. » Jérémie 30, verset 11.
L'histoire confirme ces sentences. Les nations qui ont persécuté le peuple de Dieu ont été sévèrement châtiées à leur tour. Cinquièmement, cela nous amène à aborder une autre caractéristique des relations d'Israël avec les nations chez lesquelles il se trouve. Ce peuple exilé est en malédiction aux autres nations.
Et je les livrerai pour être chassés çà et là par tous les royaumes de la terre, pour être un objet de malédiction dans tous les lieux où je les chasserai. Jérémie 24, verset 9. Comme vous étiez une malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, ainsi je vous sauverai et vous serez une bénédiction.
Zacharie 8, verset 13.
Sixièmement, c'est que ce peuple persiste à rejeter son Messie et demeure privé de toute relation avec Dieu. Il n'a ni roi, ni prince, ni sacrificateur, ni prophète. Osée 3, verset 4.
Voici des jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays, non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. Et ils erreront d'une mer à l'autre, et du nord au levant, ils courront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Amos 8, versets 11 et 12.
L'apôtre Paul fait lui aussi allusion à cet état d'endurcissement et d'aveuglement spirituel qui caractérise Israël aujourd'hui.
Mais leurs entendements ont été endurcis, car jusqu'à aujourd'hui, dans la lecture de l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, ce même voile demeure sans être levé, lequel prend fin en Christ. Mais jusqu'à aujourd'hui, lorsque Moïse est lu, le voile demeure sur leur cœur. Mais quand il se tournera vers le Seigneur, le voile sera ôté. De Corinthiens 3, verset 14-16.
Septièmement, durant le long exil d'Israël, la Palestine est devenue inculte et désertique, alors qu'elle était autrefois un pays découlant de lait et de miel. La malédiction décrétée par Dieu sur son peuple à cause de son infidélité et du rejet de Christ s'est étendue jusqu'au sol et au climat, ainsi que l'avaient annoncé les prophètes. Le pays, vidé d'habitants, ne fut bientôt plus qu'une terre désolée.
Votre pays sera mis en désolation, et vos villes seront un désert. Alors le pays jouira de ses sabbats tous les jours de sa désolation, quand vous, vous serez dans le pays de vos ennemis, alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Lévitique 26, versets 33 et 34. Voir également Deutéronome 29, versets 22 à 29. Et la génération à venir, vos fils qui se lèveront après vous, et l'étranger qui viendra d'un pays éloigné, diront, lorsqu'ils verront les plaies de ce pays, et ses maladies, dont l'Éternel l'aura affligé, et que tout son sol n'est que soufre et sel, un embrasement, qu'il n'est pas semé et qu'il ne fait rien germer, et qu'aucune herbe n'y pousse, comme la subversion de Sodome et de Gomorre, d'Adma et de Tseboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Toutes les nations diront, « Pourquoi l'Éternel a-t-il fait ainsi à ce pays ? D'où vient l'ardeur de cette grande colère ?» Et on dira, « C'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, le Dieu de leur père, qu'il avait faite avec eux, quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Et ils sont allés et ont servi d'autres dieux et se sont prosternés devant eux, des dieux qu'ils n'avaient pas connus et qu'ils ne leur avaient pas donnés en partage. Et la colère de l'Éternel s'est embrasée contre ce pays pour faire revenir sur lui toute la malédiction écrite dans ce livre. Et l'Éternel les a arrachés de dessus leur terre dans sa colère et dans sa fureur et dans sa grande indignation et les a chassés dans un autre pays, comme il paraît aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos fils, à toujours, afin que nous pratiquions toutes les paroles de cette loi. »
Ésaïe décrit aussi prophétiquement la dévastation de Canaan.
« Jusqu'à ce que les villes soient dévastées, de sorte qu'il n'y ait pas d'habitants, et les maisons, de sorte qu'il n'y ait pas d'hommes, et que le sol soit réduit en entière désolation, et que l'Éternel en ait éloigné les hommes, et que la solitude soit grande au milieu du pays. » Ésaïe 6, versets 11 et 12. Et le pays fut désolé derrière eux, de sorte qu'il n'y avait ni allant, ni venant, et ils rendirent désolé le pays désirable. Zacharie 7, verset 14.
Lire également
Deutéronome 11, versets 16 et 17. Prenez garde à vous, de peur que votre cœur ne soit séduit, et que vous ne vous détourniez et ne serviez d'autres dieux, et ne vous prosterniez devant eux, et que la colère de l'Éternel ne s'embrase contre vous, et qu'il ne ferme les cieux, en sorte qu'il n'y ait pas de pluie, et que la terre ne donne pas son rapport, et que vous périssiez rapidement de dessus ce bon pays que l'Éternel vous donne. Ésaïe 5, verset 6, « Et je la réduirai en désert, elle ne sera pas taillée, et elle ne sera pas sarclée, et les ronces et les épines monteront, et je commanderai aux nuées qu'elles ne laissent pas tomber de pluie sur elles. » Jérémie 3, versets 2 et 3. « Lève tes yeux vers les hauteurs, et regarde. Où ne t'es-tu pas abandonné? Tu t'es assise sur des chemins pour eux comme un arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ton iniquité. Aussi les ondées ont été retenues, et il n'y a pas eu de pluie de la dernière saison. Mais tu as un front de femme prostituée, tu refuses d'avoir honte. »
Ces prophéties se sont réalisées à la lettre alors que la Palestine était jadis une contrée prospère et possédant une agriculture florissante, elle devint en peu de temps une région désertique, sans culture, déboisée, aux pluies rares, dont les villages peu nombreux abritaient une population pauvre et ne comptant presque plus aucune famille juive. Telle est la condition du peuple d'Israël et de sa terre durant son long exil. Nous allons examiner maintenant, à la lumière de la parole, ce qu'il adviendra de ce peuple jusqu'au retour du Seigneur. Chapitre 5. Israël et le retour du Seigneur. Premièrement, au début de son ministère à Jérusalem, Pierre exhortait les Juifs à se repentir et à se convertir pour que, disait-il,
« vos péchés soient effacés, en sorte que viennent des temps de rafraîchissement de devant la face du Seigneur, et qu'il envoie Jésus-Christ, qui vous a été préordonné, lequel il faut que le ciel reçoive, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps. » Actes 3, versets 19 à 21.
Il liait ainsi la repentance et la conversion du peuple d'Israël à la promesse du retour de Christ. Hélas, les Juifs restèrent sourds à cet ultime appel. Au contraire, ils jetèrent Pierre en prison, tuèrent Jacques et lapidèrent Étienne, envoyant ainsi, après Christ, une ambassade disant
« Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. » Luc 19, verset 14.
Comme nous l'avons vu, Dieu les abandonna alors, Jérusalem fut détruite, des milliers d'entre eux furent massacrés et les rescapés emmenés en captivité. Le retour du Seigneur pour enlever les siens n'apportera donc pas à Israël ces temps de rafraîchissement dont parlait l'apôtre Pierre. Il faudra que ce peuple passe tout d'abord par de terribles épreuves qui auront précisément pour but de l'amener, par la grâce de Dieu, à s'humilier et à se tourner enfin vers son Seigneur qu'il a rejeté et crucifié. Par conséquent, le premier acte du retour de Christ, l'enlèvement des saints, ne concerne pas Israël et ne le délivrera pas en tant que nation. Seul le deuxième acte de ce retour, la venue glorieuse du Fils de l'homme, est liée à la délivrance et à la restauration du peuple d'Israël, sujet dont nous nous entretiendrons dans la troisième partie de notre exposé. Deuxièmement, néanmoins, depuis quelques années, un certain nombre de Juifs rentrent en Palestine. Ils y ont même constitué en 1948 l'État d'Israël, avec Jérusalem comme capitale, en dépit de très nombreux obstacles et de l'hostilité des Arabes qui occupent le pays. Mais il s'agit là uniquement d'un mouvement politique sans relation avec la conversion et la restauration annoncées par les prophètes. Nous lisons en Ézéchiel 37 le récit bien connu de la vision de ces eaux secs répandues sur une plaine. Selon l'ordre qui lui en est donné, le prophète s'adresse à ses ossements.
« Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os se rapprochèrent, un os de son os, et je vis, et voici, il vint sur eux des nerfs et de la chair, et de la peau les recouvrit par-dessus. Mais il n'y avait pas de souffle en eux, versets 7 et 8. »
Nous percevons ce bruit, et nous constatons ce mouvement parmi les ossements desséchés d'Israël. Les os se rapprochent les uns des autres, sous nos yeux étonnés. Ils se regroupent, s'efforcent de rentrer en Palestine, de s'y organiser politiquement, d'y recréer des villes et des villages, d'exploiter le pays. Mais il n'y a pas encore de souffle en eux. Ils demeurent éloignés de Dieu et plongés dans l'incrédulité la plus profonde, ne voulant rien savoir de Christ. Or, quand ils seront restaurés et convertis, il en sera tout autrement.
Ainsi dit l'Éternel des armées, voici, je sauve mon peuple du pays du levant et du pays du coucher du soleil, et je les amènerai, et ils demeureront au milieu de Jérusalem, et ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu, en vérité et en justice. Zacharie 8, versets 7 et 8.
Ce n'est certes pas ce que l'on constate aujourd'hui parmi les Juifs rentrés en Palestine. Au contraire, on peut leur appliquer le passage d'Ésaïe 17, versets 10 et 11.
« Car tu as oublié le Dieu de ton salut, et tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton lieu fort. C'est pourquoi tu planteras des plantations agréables, et tu les sèmeras de ceps étrangers. Le jour même où tu planteras, tu feras croître, et le matin tu feras pousser ta semence. Mais au jour de l'entrée en possession, la moisson sera un monceau, ou un tas de ramilles, et la douleur incurable. »
La fin de ce passage nous fait entrevoir les châtiments qui atteindront bientôt ce peuple rebelle. Mais auparavant, il continuera à retourner en Palestine, et les habitants du monde sont rendus attentifs à ce fait étonnant.
« Vous tous, habitants du monde, et vous qui demeurez sur la terre, quand l'étendard sera élevé sur les montagnes, voyez, et quand la trompette sonnera, écoutez. » Ésaïe 18, verset 3.
L'étendard qu'on lève et la trompette qui sonne sont des signaux de départ. Ce passage fait donc manifestement allusion au début du retour d'Israël en Palestine, événement annoncé selon la parole il y a plus d'un siècle par nos vénérés frères et auxquels nous assistons. Combien cela doit affermir en chacun de nous l'attente du retour du Seigneur. En effet, ces faits nous montrent avec une évidence éclatante que nous nous acheminons rapidement vers la fin du temps de la grâce qui sera clos par la venue du Seigneur. Que ceux qui ne le connaissent pas encore comme leur Sauveur s'empressent donc de venir à lui aujourd'hui, tels qu'ils sont, et d'accepter le salut qu'il leur offre gratuitement. Pour cela, il suffit de croire en lui, car lui-même a dit:
« En vérité, je vous dis, Celui qui croit en moi a la vie éternelle, Jean 6, versets 47 et 48, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi, verset 37.
Troisièmement, la parole tient d'ailleurs à préciser que, lors de cette première phase du retour d'Israël auquel nous assistons depuis quelques années, Dieu n'interviendra pas, sauf bien entendu par sa providence, comme il fait à l'égard de tous les hommes. En effet, nous lisons en Ésaïe 18, verset 4,
« Car ainsi m'a dit l'Éternel, je resterai tranquille, et je regarderai de ma demeure comme une chaleur sereine sur la verdure, comme une nuée de rosée dans la chaleur de la moisson. »
C'est bien ce que nous constatons aujourd'hui. Dieu reste apparemment impassible et regarde de sa demeure ce rassemblement d'hommes, de femmes et d'enfants, venant de tous les pays du monde, et qui s'efforcent de reconstruire leur foyer national détruit il y a 19 siècles. Cette chaleur sereine sur la verdure est sans doute une image de la période actuelle où règne l'apparente tranquillité précédant l'effroyable tempête des jugements qui, après le retour de Christ, s'abattront sur les Juifs rentrés en Palestine et soumis à l'Antéchrist. Le Seigneur Jésus lui-même a dit
« Mais apprenez du figuier la parabole qu'il vous offre. Quand déjà son rameau est tendre et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même aussi vous, quand vous verrez ces choses, sachez que cela est proche à la porte. » Matthieu 24, verset 32-33.
Le figuier est l'image d'Israël. Pendant des siècles, le tronc de ce peuple était comme mort. Aujourd'hui, nous voyons ses rameaux bourgeonner et pousser des feuilles, ce qui nous annonce que l'été est proche, c'est-à-dire que le Seigneur est à la porte. Bientôt, Dieu interviendra avec puissance pour ramener son peuple dans le pays de ses pères, comme nous le verrons dans la troisième partie de ce travail. Ces événements auxquels nous assistons ne constituent qu'un début. C'est le simple bourgeonnement du figuier, auquel succédera l'épanouissement vigoureux et complet de toutes les feuilles, puis, après l'épreuve, l'apparition des fruits que Dieu a attendus en vain durant les siècles de sa patience envers son peuple. Nous avons résumé ainsi l'histoire d'Israël jusqu'au retour du Seigneur. Nous examinerons plus loin les prophéties relatives à la détresse de Jacob et à sa conversion immédiatement avant l'établissement du millénium. Puis, nous retrouverons encore ce peuple lorsque nous étudierons le règne millénaire, durant lequel il sera appelé à jouer un rôle de premier plan sous le sceptre de Christ. Appendice. Nous n'avons pas voulu mêler des détails profanes au récit biblique, se rapportant à l'histoire passée ou prophétique d'Israël. Cependant, nous pensons que cela intéressera nos lecteurs de connaître, d'une manière plus détaillée, les événements qui se sont produits en Palestine ces dernières années. Aperçu historique. De tout temps, les Juifs ont gardé la nostalgie de leur patrie et, déjà au XIXe siècle, un certain nombre s'y établirent. Réunis à Bâle en 1897, sur l'initiative de Theodor Herzl, promoteur du sionisme, le premier congrès sioniste proclama le droit du peuple juif de reconstituer un État en Palestine. Ce droit fut confirmé le 2 novembre 1917 par Lord Balfour, ministre des Affaires étrangères du gouvernement britannique, ainsi que dans le mandat que la Société des Nations confia à l'Angleterre sur la Palestine en 1922. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies adopta une résolution recommandant l'établissement d'un État juif et enjoignant aux nations qui occupaient la Palestine de mettre tout en œuvre à cet effet. À la fin du XIXe siècle, on comptait déjà 20 colonies agricoles juives en Palestine. Par la suite, sous l'effet des persécutions dont ils étaient les objets dans divers pays, de nouveaux immigrants arrivèrent par vagues successives et se mirent à exploiter le sol qui était racheté aux Arabes à l'aide des fonds fournis par les Juifs du monde entier. Une note en bas de page. Aujourd'hui, 90% du sol appartiennent à l'État et au Fonds national juif. Ce dernier le loue pour 49 ans aux colonies, dont les principaux types sont les kibbutzim et les moshawim. Reprise de l'introduction. En 1914, la population israélite comptait 85 000 âmes, réparties en 50 centres, dont plus de 40 colonies agricoles. Sous le régime du mandat britannique, les Arabes, dirigés par le mufti de Jérusalem, s'opposèrent avec acharnement à l'immigration juive. Il en résulta des troubles sanglants que les Anglais furent incapables de réprimer. Voulant se concilier la faveur des États arabes, détenteurs des puits de pétrole, le gouvernement britannique capitula toujours plus devant leurs exigences et finit par restreindre sévèrement l'immigration et l'achat des terres par les colons juifs, livre blanc de 1939. Après la Seconde Guerre mondiale, les Anglais décidèrent de maintenir en vigueur ces restrictions et contingentèrent strictement l'immigration. Il en résulta de nouvelles violences de part et d'autre, et des drames d'autant plus lamentables qu'ils concernaient le plus souvent des gens ayant passé de longues années dans des camps de concentration. Pour finir, le gouvernement britannique résilia le mandat sur la Palestine et laissa à l'Organisation des Nations Unies le soin de régler la question. Le 29 novembre 1947, l'ONU se prononça pour le partage de la Palestine en un État juif et un État arabe, Jérusalem devant recevoir un statut international. Mais les Arabes refusèrent de se soumettre à cette décision et se livrèrent une fois de plus à des actes terroristes, mettant le pays à feu et à sang. En quelques jours, la Palestine fut plongée dans une anarchie complète. Bien que son mandat dût expirer le 15 mai 1948, le gouvernement britannique ne fit rien pour assurer la transmission des pouvoirs au nouvel État juif. Dès le mois de février 1948, une armée arabe dite de libération envahit la Palestine, et on assista à de véritables batailles dans le nord du pays et dans les montagnes environnant Jérusalem. L'armée juive, composée de volontaires peu nombreux, mais courageux et bien entraîné, résista vaillamment et parvint à occuper certaines régions. Le 14 mai 1948, veille de l'échéance du mandat britannique, l'État d'Israël fut proclamé. Aussitôt, des troupes régulières d'Égypte, de Jordanie, de Syrie, du Liban et d'Irak envahirent la Palestine par le nord, l'est et le sud. Les gouvernements de ces pays avaient, au préalable, recommander aux Arabes de Palestine de se réfugier dans les États voisins afin de faciliter leurs opérations militaires. Une note en bas de page. C'est donc à cet ordre qu'est due la création des camps de réfugiés arabes qui existent aujourd'hui encore et comptent plus de 500 000 réfugiés. D'ailleurs, les membres de la Ligue arabe ne désirent aucunement que ce problème soit résolu, car ils peuvent entretenir ainsi la haine de leurs ressortissants contre Israël. Reprise de l'introduction. Après des combats acharnés qui durèrent 4 semaines, les envahisseurs furent complètement défaits. Seule la Jordanie parvint à occuper une partie de l'ancienne Palestine et à s'assurer la possession de la vieille ville de Jérusalem. Des conventions de cessez-le-feu furent conclues à plusieurs reprises, sous les auspices des Nations Unies, mais elles furent chaque fois violées par les Arabes qui, chaque fois aussi, subirent une nouvelle défaite. Pour finir, des armistices furent signés de février à juillet 1949 avec les États agresseurs excepté l'Irak. Ces conventions prévoyaient expressément qu'elles seraient remplacées par des traités de paix, mais en dépit des efforts d'Israël, ce but n'a pu être atteint jusqu'ici. Au contraire, les Arabes continuèrent à proclamer hautement qu'ils anéantiraient Israël dès que leur puissance militaire le leur permettrait. Ils décrétèrent la guerre économique contre lui, boycottant ses produits et toutes les entreprises qui font du commerce avec lui, interdisant le canal de Suez à tous les bateaux transportant des marchandises provenant d'Israël ou qui lui sont destinées. Une note en bas de page. Violant ainsi la Convention de Constantinople de 1888 qui garantit le libre passage du canal à tous les navires, en temps de paix comme en temps de guerre. Reprise de l'introduction. En outre, l'Égypte bloqua l'accès au port d'Elat dans le golfe d'Aqaba. Ces mesures s'accompagnèrent d'une intense propagande destinée à entretenir la haine du monde arabe envers Israël. Coup de main, actes de sabotage, assassinats se multiplièrent. Pour finir, l'Égypte, la Syrie et l'Arabie saoudite conclurent un pacte militaire auquel la Jordanie adhéra en mai 1956. Armées et instruites par l'URSS, les troupes égyptiennes se concentrèrent dans la presqu'île du Sinaï, avec l'intention d'envahir de nouveau Israël par le sud-ouest du pays.
Mais l'armée israélienne déjoua à temps ses desseins en fonçant à l'improviste,
le 29 octobre 1956, contre les positions égyptiennes. En une semaine, elle anéantit ses adversaires, s'emparant d'un matériel considérable, occupant le territoire de Gaza et la péninsule de Sinaï, et mettant fin au blocus du golfe d'Aqaba. Au bout de quelques mois, elle retira ses troupes à la demande des Nations Unies, dont les troupes occupèrent la frontière égypto-israélienne occidentale. Il en résulta une diminution des raids meurtriers des Arabes contre la population israélienne. D'autre part, la navigation fut rétablie dans le golfe d'Aqaba, ce qui permit de développer considérablement le trafic du port d'Elat. En revanche, le canal de Suez resta fermé à Israël et les pays arabes continuèrent à proférer les plus graves menaces contre le jeune État. Encouragés par l'URSS, ils se livrèrent à des incursions de plus en plus meurtrières à partir de la Syrie, du Liban et de la Jordanie. En 1967, l'Égypte concentra ses troupes dans le Sinaï, exigea le retrait des forces de l'ONU de Gaza et de Sharm el-Sheikh, et signa un pacte militaire avec la Syrie, la Jordanie et l'Irak. Le 23 mai 1967, elle commit un acte de guerre flagrant en fermant les détroits de Tiran à la navigation israélienne. Faisant front à ce qu'il considérait comme une agression, Israël passa à l'attaque le 5 juin 1967. La Jordanie, la Syrie et l'Irak entrèrent aussitôt en guerre, appuyés par l'Arabie saoudite et l'Algérie. Mais en moins d'une semaine, les armées arabes furent anéanties. Le territoire de Gaza, le Sinaï tout entier, la vieille ville de Jérusalem et le plateau syrien de Golan tombèrent aux mains des Israéliens. Ces territoires comptent 992 000 habitants, dont 952 000 musulmans. À l'abri du cessez-le-feu imposé par les Nations Unies, les Arabes continuent à refuser obstinément de reconnaître Israël et de négocier la paix avec lui. Ils maintiennent leur intention de l'exterminer et organisent, en attendant d'être en mesure de reprendre les hostilités, des actes de terrorisme en territoire israélien.
En dépit de ces difficultés,
Israël a poursuivi son œuvre constructive. Des centaines de milliers d'immigrants ont été intégrés dans la nation. L'industrie, l'agriculture et les voies de communication ont été développées. L'exploitation des sources d'énergie et des richesses minières a fait un bond en avant. L'État a à sa tête un président nommé pour 5 ans par le Parlement, Knesset. Le gouvernement exerce le pouvoir exécutif à l'aide d'une administration comptant environ 60 000 fonctionnaires. Au début, Tel Aviv était le siège des autorités, mais Israël a toujours considéré la cité de David comme la capitale. En novembre 1949, la Knesset décida donc, contrairement à l'avis de l'ONU, d'y transférer le siège de l'État. Depuis la guerre des 6 jours, Jérusalem est entièrement sous administration israélienne. Elle compte 285 000 habitants. L'armée est issue des organisations de volontaires créées à l'époque du mandat britannique et de la brigade juive qui combattit dans le camp allié durant la Deuxième Guerre mondiale. Tous les hommes de 18 à 26 ans sont tenus d'y accomplir une période de service de 2 ans et demi. Cette période est de 20 mois pour les femmes célibataires de 18 à 26 ans. Ces dernières ne sont affectées qu'aux services auxiliaires. L'armée joue un rôle considérable dans la vie nationale, car elle est un véritable creuset où les divers éléments constituant le peuple israélien sont fondus en un tout homogène. Développement économique. Israël a une surface de 20 700 km², non compris les territoires placés sous administration israélienne depuis la guerre des Six Jours, dont 445 km² sont recouverts d'eau. Compte tenu des conventions d'armistice de 1949, les frontières s'étendent sur 1 245 km, dont 188 km de côte sur la mer Méditerranée, et la longueur maximum nord-sud du pays est d'environ 430 km. Sa largeur est-ouest au maximum de 120 km, au sud de Beersheba, et au minimum de 14 km au nord de Tel Aviv. Israël compte près de 3 millions d'habitants. La plus grande partie de la population est établie dans la plaine qui s'étend à proximité de la côte méditerranéenne, où le climat se prête à la culture des fruits, des céréales et du coton, à condition qu'on irrigue le sol. Lors de la fondation de l'État en 1948, il y avait environ 650 000 habitants. L'accroissement survenu depuis lors est imputable avant tout au grand nombre d'immigrants juifs, 1 300 000 en chiffres ronds. Lorsqu'on songe qu'en 1882, il n'y avait que 24 000 juifs en Palestine, on mesure l'ampleur extraordinaire de l'évolution qui s'est produite ces dernières années. La plupart des immigrants sont rapatriés aux frais de l'agence juive, qui reçoit les contributions volontaires des juifs du monde entier. Un grand nombre d'entre eux sont dans un dénuement complet et ne possèdent ni instruction ni formation professionnelle. Il faut donc dépenser des sommes considérables pour les loger, les instruire et les intégrer dans l'activité nationale. L'État doit créer de nouveaux villages, développer sans cesse les institutions existantes et en organiser de nouvelles. C'est ainsi qu'on a construit, depuis 1948, plus de 390 000 logements pour les immigrants. Des efforts particuliers sont accomplis afin de leur apprendre l'hébreu le plus rapidement possible. Vu les difficultés considérables entraînées par la remise en culture d'étendues incultes depuis des siècles, parfois même marécageuses ou désertiques, les immigrants furent contraints de se grouper en colonies afin de mieux conjuguer leurs efforts et, aussi, d'assurer leur protection. Depuis la fondation de l'État d'Israël, 450 nouveaux villages furent créés. La surface cultivée a passé de 168 000 hectares en 1948 à 430 000 hectares en 1970, et celle des terres irriguées de 30 000 à 173 000 hectares. La production agricole a presque sextuplé et couvre les trois quarts des besoins de la consommation en valeur. Des forêts ont été plantées sur 47 000 hectares. Le problème primordial est celui de l'irrigation, vu le climat sec qui règne en Israël, surtout dans le sud du pays. Les 9/10 des réserves d'eau sont déjà affectées à ce but et à l'approvisionnement en eau de consommation. Cependant, même une utilisation intégrale de ces réserves ne permettrait d'irriguer que 40% des terres irrigables. Aussi, l'État espère pouvoir exploiter un jour de manière rentable le procédé découvert par un savant israélien permettant d'assainir l'eau de mer et les eaux saumâtres. La plupart des ressources minières se trouvent dans le Negev, territoire de 11 000 km² qui s'étend de Beersheba à Eilat et en largeur de Gaza à la mer Morte. Auparavant, seules les potasses de la mer Morte étaient exploitées. La production s'élève à plus de 600 000 tonnes par an et s'accroît sans cesse. Le premier puits de pétrole a été foré en 1955. Actuellement, 34 puits sont en exploitation, produisant environ 92 000 tonnes par an. Les gisements de gaz ont fourni en 1969-70 l'équivalent de 183 000 tonnes de pétrole. La capacité des centrales électriques est 14 fois plus élevée qu'en 1948. Elle dépasse aujourd'hui 1 million de kilowatts. L'industrie se développe rapidement, elle aussi. L'État s'efforce d'accroître surtout la fabrication de produits destinés à l'exportation, afin de réduire le déficit de la balance commerciale. Néanmoins, 85% de la production industrielle est encore affectée au marché intérieur et seulement 15% à l'exportation, bien que cette production ait plus que quintuplé depuis 1948. Le nombre des personnes occupées dans l'industrie a passé de 73 000 en 1949 à 261 000 en 1970. Les industries principales sont, par ordre d'importance, les suivantes: produits alimentaires, métallurgie, construction de machines, textiles et confections, produits chimiques et pétroliers, matériel de transport, industrie du diamant. Les transports ont subi une évolution semblable à celle des autres branches économiques. Le réseau routier s'étend sur plus de 4000 km et les lignes de chemin de fer sur 800 km environ. La marine marchande s'est aussi beaucoup développée. Elle a passé de 4 bateaux en 1948, jaugeant 6000 tonnes, à 109 bâtiments en 1970, totalisant 2 millions de tonnes. Le port principal est Haïfa, dont l'équipement est sans cesse perfectionné. Le second port en eau profonde est Ashdod, à une trentaine de kilomètres de Tel Aviv. Eilat, le troisième port, est situé sur le golfe d'Aqaba. L'aviation commerciale est également en plein essor. Le commerce international se développe d'année en année, malgré l'opposition de la Ligue arabe. La valeur des produits exportés a passé de 29,7 millions de dollars en 1949 à plus de 725 millions en 1969. Les marchés principaux d'Israël sont situés en Europe, 56%, et en Amérique, 22%. Les produits les plus exportés sont les agrumes et les diamants. L'importation s'est également beaucoup développée, passant de 253 millions de dollars en 1949 à 1290 millions en 1969, par suite de l'augmentation considérable de la population, de l'expansion des activités économiques et des besoins de la défense. L'État d'Israël voue une grande attention à l'instruction et à l'éducation de la jeunesse. En dépit des charges écrasantes que lui impose la défense nationale, l'immigration et le développement des moyens de production, il est parvenu à créer un ensemble scolaire complet, allant de l'école enfantine à l'université. L'instruction primaire est obligatoire et gratuite pour les enfants de 5 à 14 ans. La scolarité sera étendue graduellement jusqu'à l'âge de 16 ans. Les études secondaires durent 4 ans. L'enseignement supérieur est donné dans 7 institutions, comptant 45 000 étudiants.